L'aïeul scrutait l'horizon, et c'était en vérité Ombre qu'il cherchait. Elle n'était pas encore arrivée à son repas de noces. Il y avait longtemps qu'on l'attendait, pourtant. La table dressée étalait une profusion de kaolin. C'était la table de paix où sont conviées les épousées, elles seulement. Rediwa les interrogeait du regard. Sereine, même dans l'attente, elle lui disait qu'elles avaient accompli. Elle surgit des crevasses qu'une montagne arbore quelque part, tel un saignement d'accouchée. Chacune à son tour avait pris le chemin qui mène là où la forêt est sombre et abrite tant d'amants. Chacune à son tour avait été étreinte et s'en était revenue s'asseoir à la table de noces.
« Que les mânes soient loués !»
pensa à cet instant Rediwa, car du plus loin qu'il s'en souvenait, il en avait toujours été ainsi. Une montagne secrète se profile à l'horizon de qui peut la voir, et enfonce profond ses racines dans la contrée qui lui sert de vallée. Quand les soupirs envahissent la saison, immanquablement, la montagne accouche d'une fille qu'elle part d'ocre et de kaolin. Cette fille, née par la seule force des soupirs, est féconde, d'une fécondité à rendre verdoyant le désert le plus aride. Son visage est empreint de gravité. C'est qu'elle a faim, et c'est déjà que seul le regard de l'amant peut la rassasier. Il n'en saurait être autrement. Voilà 1000 saisons que la montagne accouche et que ses filles s'en vont, affamées, chercher le regard qui donne droit au repas. Elles s'en reviennent toujours, comblées. Et c'est pour cela que Rediwa s'interrogeait. La saison était pourtant au soupir, et son regard cherchait en vain la dernière née de la montagne. Qui pouvait-elle être, sinon Ombre Conca ne connaissait pas encore? Voici donc toutes les aînées d'Ombre assemblées autour de la table de noces. Alors s'imposait à l'aïeul la place vide, d'autant plus vide qu'il n'y avait qu'elle d'inoccupée, et qu'irrémédiablement les regards des convives y convergeaient. Rediwa comprenait. Il y avait longtemps que la dernière née avait pris le chemin qui mène à la vallée. Elle n'était toujours pas revenue. Les épousées, dans un même mouvement, portèrent soudain le doigt sur les lèvres. N'est-ce pas que la bouche doit toujours taire l'impensable ?
Ombre sera étreinte,
lancèrent-elles d'une même voix.
S'il est vrai qu'en cette saison existe encore un homme qui suffoque dans la vallée, la dernière de notre lignée viendra s'asseoir à cette table.
Rediwa pouvait-il les croire en cette saison où même le ciel ne ressemblait plus à rien ? L'aïeul ne retenait que l'absence de la dernière née. C'était de ne pas la voir poindre à l'horizon qu'il soupirait. Il imaginait Ombre dans la tourmente, et Ombre ne démontait pas, bien au contraire. Elle suggérait tout bas que Rediwa était dans le vrai. Elle le suppliait de ne pas se laisser abuser par la certitude toute de façade de ses aînés. Sous le pli de leurs yeux qui semblaient regarder en dedans et ignorer tout le tumulte du dehors, perçaient tant d'interrogations. Tandis qu'Ombre offrait seulement son regard à elle qui embrassait de bout en bout le pays des amants. Ses aînés calfeutrés dans la paix reconnaissaient-elles encore la contrée d'où montent les appels ? Elles acquiesçaient. Pour elles, Ombre y était tout à fait. Il y avait là jusqu'à la rumeur sourde d'une forêt sombre au triomphe exubérant. Une forêt pareille à une démente que seule la mer endigue. La dernière née était bien dans le pays éventré de fleuves et qui ne frémit plus quand le soleil est au zénith et lui fait l'œil dur de la réprimande.
« Vous savez et ne savez pas, fille de ma mère. »
leur répondit Ombre d'une voix pleine d'entendement.
« Par l'ocre et le kaolin, vous savez et ne savez pas pourquoi je ne suis pas parmi vous. »
Le silence autour de la table de noces se froissa de murmures. Ombre avait-elle enfreint une quelconque prérogative ? À son corps défendant, elle affirmait qu'elle était conforme, en tout point conforme. Elle n'avait rien oublié. Il lui était même doux de se regarder avec les yeux de celle qui l'avait précédée. Cela la ramenait au jour où elle fut parée, au jour où elle prit le chemin qui mène à l'amant. Elle se souvenait, son cœur qui battait si fort, non pas de peur mais de mesurer la portée de son voyage. Son pas était sûr parce que porté par la certitude de l'étreinte. La vallée l'appelait de sa voix des mauvais jours, et, en bonne fille de sa mère, elle répondait. Sa faim pour seul guide, elle s'en allait. Comme séduire lui semblait aller de soi. De la vallée montaient les râles, et elle avait le visage ocre et kaolin. Nul besoin d'espérer, puisque espérer, c'est déjà un peu douter. Elle ne doutait pas. Elle allait vers l'étreinte. Pouvait-elle imaginer ? Au rendez-vous des pleines lunes, Pas un seul amant ne venait. L'homme ployait sans que son regard n'aille à la rencontre d'ombre. Étrange. Ombre ne perdait cependant pas confiance. Elle rôdait. Que pouvait quelques lunes infructueuses contre mille saisons de kaolin ? Elle persévérait. Jouant des nuances de son langage d'affamé, elle embaumait l'air des parfums les plus étranges. Mais pas le léger frémissement des narines qui éveillerait ses soupçons. Les oiseaux de nuit ululaient dans l'après-midi sans provoquer d'émoi. Pas plus que la chair de poule de la caresse d'ombre quand elle s'approchait et donnait le frisson en pleine canicule. Voilà que la dernière née perdait patience et se faisait violente. Là encore, elle était conforme. De ses propres venins n'a-t-elle pas l'antidote ? Elle abusait de la fièvre jusqu'à brûler les fronts, jusqu'à glacer la chair. Dans la tête de ceux qui refusaient son étreinte, Ombre mettait des dissonances et dansait une sarabande. Ils saignèrent du nez. Ils furent pris de spasmes. Leur parole devint délire. Et dire qu'un simple regard aurait suffi pour réconcilier. Rien qu'un regard, et Ombre aurait rengainé ses couteaux. Mais dans l'aveuglement, les amants s'en remirent à ceux qui avaient une idée sur tout, mais ignoraient jusqu'à l'existence de cette montagne qui respire et s'enfonce profond dans la contrée qui lui sert de vallée. Face au désir d'Ombre, ils ne trouvèrent pas mieux que les gestes qui détournent de la fille de la montagne. Alors Ombre désespéra. De là où elle était jusqu'à son repas de paix, au lieu de l'étreinte, seulement la multitude de ses vaines tentatives. En quelle saison sa noce ? Se demandait-elle. Tant et si bien que le mouvement se résumait chez elle à traîner le désarroi. Elle vacillait, elle hurlait à la lune de concert avec les chiens faméliques. Quoi qu'elle entreprît, l'indifférence de l'amant la renvoyait à sa vaine opulence. Alors, elle se contemplait. La voilà tour à tour regard et horizon. Elle ondoyait de toutes les substances de la montagne sa mère, elle s'enivrait d'elle-même. Ce fut là qu'autour de la table des épousés, les fronts se plissèrent. De trop ou de ne pas comprendre ? Ombre ne savait. Elle mesurait seulement la distance où ses fronts la reléguaient. Elle était bien dans le pays où la nuit sous la voûte végétale enfante mille monstres. L'air y est irrespirable. Elle se tenait là, pareille à la torche de résine sur le point de s'éteindre, sans une main pour animer la flamme. Et soudain, de sa bouche surgit ce cri.
« Voyez, fille de ma mère, mon chemin n'a rien d'un raccourci, rien de l'allée pavoisée de vos triomphes. Je n'avance pas, je tâtonne. »
Plus que jamais, Ombre était branche qui ployait sous l'abondance des fruits. Elle oscillait jusqu'au vertige à la cadence de sa propre sève. L'ivresse de son mouvement, l'ivresse d'elle-même. Sur la table des épousés, les fronts se plissèrent plus encore. Cette fois, Ombre comprenait. Ses sœurs désapprouvaient. Ombre oublie-t-elle que la montagne n'est rien sans l'ocre et le kaolin dans le regard de l'amant ? Cette pensée ramena aussitôt Ombre à ses bras ballants, ses bras encombrants à force d'être inutiles. Alors, posant la main droite sur la tête, elle se fit soudain humble et supplia ses aînés.
« Ne vous offensez pas, fille de ma mère. Je m'enivre de moi pour ne pas douter. » Mais que pouvez-vous craindre ? Il y a cette faim pour me retenir.
Agrippée à sa faim qui ne lui permettrait jamais de rebrousser chemin, mais toujours lui dicterait d'aboutir, Ombre reprit docilement la marche. Elle marchait en se sachant belle. Elle se regardait avec les yeux de l'amant. Elle mesurait l'étendue de l'amour qui lui était dû. Elle disait qu'elle n'était pas vaine sa présence dans la vallée. Mais puisqu'il fallait bien expliquer pourquoi elle s'attardait loin de la table de noces, que faire, sinon encore considérer ? Alors elle se pencha de nouveau sur son territoire. Elle l'écouta, l'ausculta, le sentit dans ses moindres frémissements. C'était bien le pays où viennent les filles de sa mère offertes au regard de ceux qui ploient. Qu'importe cette voix vindicative qui s'enroue à force de vouloir prouver le contraire en tenant des propos sur la progression constante du revenu par tête d'habitant ? À tous les bilans globalement positifs, Ombre criait grâce et demandait seulement pourquoi. Pourquoi encore les yeux chargés d'effroi ? Pourquoi les dents serrées ? Pourquoi ce dégoût alors que seulement le jour se levait ? En attendant une réponse qui tardait à venir, Ombre maintenait qu'elle était bien dans la vallée des amants.
Explique alors pourquoi aucun ne t'étreint.
L'autre voix tonitruait. Elle allait triompher. Ombre eut pourtant un sourire qui disait qu'elle savait. Ici, tout aimait à prétendre. La pluie ne se voulait-elle pas déluge? Le paysage ne paraissait-il pas sans nuance? Le soleil sans course quand il était au zénith? Ombre sera étreinte. Aussi vrai que cette forêt farouchement vierge dans son strict uniforme vert s'affale parfois avec des mollesses de femelles assouvies quand le ciel taquine ses ronflements, là-bas, aux confins des savanes. Ombre aura sa noce. Soudain, l'autre voix laissa échapper un rire gras qui mit le doute dans l'esprit d'Ombre et lui fit mesurer son inconsistance. Et si elle avait raison, l'autre voix? Si, véritablement, l'indifférence devant sa parure ocre et kaolin n'était pas prétention. Ombre secoua la tête énergiquement. Elle ne se concevait pas. Pendue à sa faim qu'attisait la détresse muette tout autour d'elle, elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas concevoir. Donner raison à l'autre voix. Mais qu'adviendrait-il de l'amant qui se demande pourquoi? Qu'adviendrait-il de la montagne? Ni Kilimandjaro, ni Adamawa, même pas Aïr. Ombre savait que la montagne n'était rien sans le regard de l'amant. Alors elle s'affola et se mit à maudire l'époque. Elle la soupçonnait de porter en germe son tourment. La voilà qui désirait remonter le temps où le peuple de la vallée n'était pas encore un peuple d'amants, quand il n'avait conscience que de ses halètements dans un champ clos à l'air raréfié, et que rien, pas même la nostalgie d'une position fétale, ne pouvait taire son plein gré de surgir de la contrée mère devenue pourrissoire. Peuple à la vision scellée qui disait qu'un étang sans fond accapare tout songe. Que lui restait-il hors du long mais implacable glissement vers le fond? Que pouvait-il puiser dans la sensation de sombrer? Se cabrer, charger toute pensée du refus d'épouser la logique de cette pente funeste, se débattre. C'est pourquoi il se mit à déferler. Djouké était à ses trousses. La hideuse aux mains lourdes de griffes respirait et son haleine effleurait les nuques. L'ogresse, c'est elle qui poussait. C'est elle qui prêtait ses visages avares, peuple sans songe. Ce n'était pas un peuple d'amants, rien ne le retenait, rien non plus ne l'attirait. Djouké seul était certitude. Éparpillé dans les paysages à la démence fertile, chaque pas semblait inéluctablement le mener vers l'abîme. Au hasard de cette ruée, un point d'eau sous le ciel incandescent, la moindre promesse décelée sur la terre brûlante, et voilà qu'une voix jurait déjà qu'ici l'ogresse devait rendre l'âme. Certains s'arrêtèrent et, s'arc-boutant sur la clémence des dieux, ils s'installèrent. Pour quel destin? Eux seuls le savent. Le reste continua. Sur leur chemin, la plaine, soudain verdoyante. Un lac vaste comme une mer intérieure. Devant tant de dons, ses regards habitués à couver le mirage restèrent circonspects. Deux jours durant, immobiles, chacun contemplait et considérait. Quand le doute s'estompa et que les premiers groupes s'engagèrent pour enfin prendre possession de cette manne à perte de vue, une pluie de flèches et de lances fulgurant dans la lumière du matin fit éclater les chairs. L'ogresse, encore elle! Qui ne la reconnaissait dans le surgissement des guerriers ombrageux derrière le parfait rempart des boucliers chatoyants d'ornements? Faire front? Se battre? Certains s'y résoudront. Pour quelle issue? Eux seuls le savent. Le reste s'éloigna. Amenuisée mais refusant la défaite, la horde avançait au hasard. À force de l'apprivoiser, sa douleur n'avait plus de sens. Et elle, qui ne s'étonnait plus de rien, ne fit aucun cas de la nouvelle sueur qui perlait sur les fronts. Sous les pieds, le terrain se faisait rebelle. Il grimpait. Doucement d'abord, par étages successifs, pour enfin se dresser en une pente raide que la horde escalada comme on agonise. Au fait, ceux qui arrivèrent n'avaient pas encore repris souffle, même pas le temps de se demander quelle force les avait portés, que leurs yeux s'emplirent d'un vert si sombre qu'il leur sembla que là-bas, en contrebas, la terre vomissait une étrange bile. Et eux qui n'avaient encore rien vu de pareil soupçonnèrent Djouké sous ce surgissement. L'ogresse, toujours elle. Ils la croyaient derrière, voici à présent qu'elle les précédait. Ils se sentirent assiégés sur leur promontoire. De désespoir, ils baissèrent les paupières et se couchèrent là. Pour la première fois, ils étaient dociles, sans le moindre soubresaut, prêts à sombrer, à atteindre le fond de l'étang où l'ogresse semblait les attendre depuis toujours. Cependant, au bord de cet instant sans recours, l'un d'eux garda les yeux ouverts, comme si le vertige se mesurait, comme s'il importait encore et malgré tout de voir jusqu'où va le précipice.
« Loué soit-il, »
dit Ombre.
« Loué soit celui-là qui fixait droit devant lui et vit sur le versant du promontoire, dévalant vers la vallée où l'ogresse attendait, un ruissellement ocre et kaolin. » Par endroits, l'ocre de sa couleur de sang coagulé s'agrippait au kaolin. À moins que ce ne fût le kaolin, couleur du ciel à l'aurore, qui s'agrippait à l'ocre. Et ce corps à corps donna lieu à un chatoiement auquel ne manquait aucune nuance de l'arc-en-ciel. Alors l'homme s'extasia. D'étreindre de ses yeux ce spectacle, il ne put s'empêcher. Et comme si ce qu'il voyait lui tenait discours, il se leva au milieu des râles, alla prendre un peu des deux substances surgies du ventre de la terre, s'en frotta sur le visage et proclama qu'il savait pourquoi l'ocre et le kaolin emplissaient ses yeux à cet instant précis. C'est seulement alors qu'il emprunta le versant qui menait vers le territoire où l'ogresse attendait.
Comprenne qui peut comprendre, mais Ombre disait.
Loué, car voilà le point de départ d'une longue lignée, celle de ceux qui, suffoquant dans cette contrée aux rigueurs de marâtre, ne perdent jamais de vue le chatoiement qui naît du voisinage de l'ocre, couleur du sang coagulé, et du kaolin, couleur du ciel à l'aurore. Où était-il l'amant de toujours ?
Se demanda Ombre. Les râles aujourd'hui sont pourtant si semblables à ceux qui envahirent le promontoire qu'ils font encore accoucher la montagne. Ombre est là, tout ocre et kaolin. L'ogresse règne-t-elle à présent, souveraine, à moins qu'elle soit vaincue, autant ainsi son sens à la parure. Ombre n'en croyait rien. D'où venait alors qu'aucun amant ne l'étreignait ? Là, Ombre se taisait. Pour ne pas exprimer l'inconcevable, elle se taisait.
C'est de ce silence qu'il s'agissait en cette saison étrange, n'est-ce pas, Tate ?